Radio Interview BO par Benoît Basirico.
Bonjour, émission spéciale compositrice au programme des musiques de films au féminin en compagnie des fondatrices et membres du collectif Troisième Autrice, Julie Rouet, Delphine Campi, Florence Caillon, Camille Petitjean. Bonjour à toutes.
Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous questionnerons la place des femmes dans la musique de film.
J'ai écrit des sonates, tu n'as jamais daigné les entendre ou les lire.
Pour commencer, une première sélection musicale. Tout d'abord, dans cette émission, nous citerons quelques noms de compositrices, des compositrices qui ont marqué plus de 100 ans de cinéma. Tout d'abord, la pionnière Germaine Taillefer, qui, dans le début du cinéma, a pu faire des musiques de films, notamment pour Jean Epstein. Et dans le choix musical, il y aura aussi nos coups de cœur, les miens et les vôtres, qui vont s'exprimer. Tout d'abord, Eleni Karindrou, une compositrice grecque qui a travaillé de manière régulière avec le réalisateur Théo Angelopoulos. On va commencer donc avec L'éternité et un jour, musique d'Eleni Karindrou, qui se trouve être une palme d'or à Cannes, et donc c'est la seule compositrice à avoir obtenu une palme d'or à Cannes, si on ne compte pas Björk, évidemment, pour Dancer in the Dark, qui est un cas particulier, évidemment, puisque c'est aussi un album de Björk, mais Eleni Karindrou donc a aussi donc obtenu une palme d'or pour cette Éternité et un jour. Les compositrices au cinéma avec à l'instant Marie-Jeanne Serrero qui a composé cette partition pour Les Garçons et Guillaume à table. Marie-Jeanne Serrero a aussi travaillé de manière régulière avec René Ferré, notamment la musique de Nannerl et La Sœur de Mozart, qui n'est autre qu'un film de René Ferré sur La Sœur de Mozart, dont les partitions étaient mises de côté et même certaines étaient signées de son frère. Les Garçons et Guillaume à table, on peut dire qu'il a eu 10 nominations au César, dont 5 Césars, César du meilleur film, le film le plus nommé cette année-là, mais aucune nomination pour la musique. Ça nous rappelle d'ailleurs, il y a un an, Belle Époque de Nicolas Bedos, qui en fait était le film le plus nommé l'année dernière, et Anne-Sophie Versnayen, qui a signé la musique, n'était pas nommée, elle, pour la musique.
J'entends des notes à moi. Elles résonnent dans ma tête.
Ma pauvre chérie, il faut connaître les secrets de l'harmonie et du contrepoint. Or, c'est inaccessible à beaucoup de monde, particulièrement aux femmes.
Excellent.
Cet extrait est extrait de Nannerl et la sœur de Mozart que je viens de citer, de René Ferré. La place des femmes dans la musique de film qui a toujours été problématique, pas assez reconnue. Mais comme on le verra dans cette heure d'émission, les femmes en musique de film ne manquent pas pour autant. Alors tout d'abord, donc, le collectif 3e Autrice. Je resalue nos invités, Julie Rouet, Delphine Campi, Florence Caillon, Camille Petitjean. Je me dirige tout d'abord vers Julie Rouet, qui est une des fondatrices du collectif et la coprésidente. Tout d'abord, qu'est-ce que 3e Autrice ? C'est une association ?
C'est une association depuis une semaine, 10 jours, je ne sais plus exactement. Au départ, en fait, le collectif est né d'un constat en mars 2019 que nous étions très peu nombreuses, nous autres compositrices, et que peut-être il pourrait être intéressant de discuter ensemble de notre position un peu particulière. Et en ce qui me concerne, il s'agissait aussi beaucoup de transmettre, une expérience. Et peut-être de prévenir un peu, en tout cas, pour remettre les choses dans l'ordre. J'avais eu à ce moment-là quelques expériences successives lors du festival du film d'Aubagne, où je me suis dit, non, ma place, elle n'est pas exactement la même que celle d'un compositeur. Notamment, chose très bête, on ne demande jamais à un compositeur, qu'est-ce que ça vous fait d'être un compositeur ? Qu'est-ce que ça vous fait d'être un homme dans ce métier ? Et rien que pour ça, j'avais envie, moi, de pouvoir discuter de ça, de pouvoir trouver des réponses un peu plus malignes que juste « Ah bah non, rien du tout », parce que non, c'est pas rien du tout. On a une position particulière, on est regardé sûrement un petit peu différemment. Il ne s'agit pas de se poser en victime, il s'agit juste de constater qu'on est dans un système qui est plus vieux que nous, où les hommes ont une place privilégiée.
Alors j'imagine qu'il n'y a pas de généralité, que peut-être pour certaines compositrices, elles se sont senties soutenues. Vous avez vraiment, dans votre expérience, la sensation justement que d'avoir rencontré plus d'obstacles que de tremplins.
Non, je dirais pas ça du tout. Non, il ne s'agit pas de dire qu'on a rencontré plus d'obstacles. De toute façon, c'est impossible de les nommer, de les pointer. Peut-être que d'une manière générale, on pense moins aux femmes de compositrices. Moi, je cite souvent un truc qui me paraît bête, mais très significatif. Quand on cherche quelqu'un pour faire la musique de son film et qu'on est un jeune réalisateur, un jeune producteur, jeune productrice, on tape dans Google « compositeur de musique de film », on tape pas « compositrice ». Et donc, d'une manière générale, c'est juste un symptôme d'une invisibilité, en fait.
En vrai, quand on tape « compositrice », on tombe sur des compositeurs. C'est encore pire.
Oui, Florence Caillon, tout à fait.
Je l'ai fait.
Alors, je crois que c'est une nouveauté en France, ce collectif 3e Autrice. Est-ce qu'il prend comme modèle l'Alliance for Women Film Composers aux États-Unis ?
Tout à fait. On était ravis de voir qu'elles existaient, même si au départ, nous, on s'est créé, on était un petit groupe sur Facebook qui discutait de nos petites problématiques, de nos questions techniques ou humaines. Et puis on s'est rendu compte, au moment où on s'est posé des questions peut-être un peu plus politiques, qu'il y avait des équivalents dans les autres pays. Et effectivement, elles nous ont pas mal inspirées.
Alors il y a une chronologie également qui nous amène à la création de ce 3e Autrice. Ce n'est pas évidemment du jour au lendemain que cette idée a émergé en vous. Depuis 2-3 ans, il y a quelques événements, je crois, qui ont encouragé cette création. Notamment en 2019, une lettre ouverte qui dénonçait l'absence de femmes au sein d'un palmarès.
Alors c'était en 2020. Juin 2020. Et effectivement, je vous disais, nous on a créé ce groupe de discussion, puis ensuite une page Facebook, qui est une espèce de vitrine du travail des compositrices. Et en 2020, on s'est permis de réagir à l'annonce des nominations des prix de l'UCMF, qui ne nominait aucune femme, si ce n'est Hildur Gunnadottir, dans la catégorie internationale. Mais on s'est permis de réagir parce qu'on s'est dit, ok, il y a très peu de femmes compositrices de musique de film, mais si en plus on ne les voit pas, on ne les soutient pas, on ne les rend pas un petit peu plus visibles lors d'un prix comme ça, qui est le seul de son genre, eh ben ça ne va pas changer. Donc ça, on a discuté, on a écrit une lettre, après chacune avait un peu sa façon de voir les choses et de le formuler, donc on a essayé de trouver une formulation qui convenait à tout le monde. pour s'exprimer sur le sujet.
Alors la non-visibilité des femmes au sein des palmarès, c'est vrai que c'est une grande question, parce qu'il y a le jury qui peut dire aussi « Oh, on a envie d'être intègre dans notre choix, etc. etc. » Donc on ne va pas faire le débat là-dessus, évidemment, aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a ce constat d'une minorité féminine au sein des palmarès. Il suffit d'ailleurs de prendre les Oscars et les Césars. Les Oscars, vous avez cité Julie Rouet, Hildur Gunnanotir, qui a reçu l'Oscar pour Joker, qui est en fait la première lauréate féminine ayant obtenu un Oscar du temps des Oscars où il y a une unique récompense musicale. Parce qu'en fait, il y a eu deux autres récompensées aux Oscars, la Britannique Rachel Portman pour Emma, mais c'est du temps où il y avait deux catégories musicales pour la comédie et le drame. Cette année-là, où Rachel Portman l'a remporté, c'était The English Patient, le patient anglais de Gabriel Yared. Autre lauréate des Oscars, Anne Dudley, d'ailleurs également britannique, ça peut poser la question, sachant qu'Hildur Gunnanotir est islandaise, donc la Grande-Bretagne permet les femmes d'être présentes aux Oscars aux États-Unis. Deuxième oscarisée, donc Anne Dudley pour The Full Monty, et cette année-là, c'était également une double catégorie, puisque pour le drame, c'était l'année de Titanic, pour l'Oscar de James Horner. Donc Hildur Gunnanotir est la seule femme à avoir remporté la musique de film, au temps où c'est la seule à être récompensée. Pour les Césars maintenant, eh bien, aucune lauréate dans toute l'histoire des Césars. Précisons évidemment que les Césars ne sont nés qu'à partir de 1975, donc ça exclut évidemment les femmes qui ont pu faire de la musique auparavant. En César, il y a deux nommées. Béatrice Thirier, tout d'abord, Béatrice Thirier qui a été nommée pour Bird People de Pascal Ferrand. La voix et la musique de Émilie Simon pour La Marche de l'Empereur. Alors comme je vous le disais, il n'y a eu que deux nommés dans l'histoire des Césars. Béatrice Thirier, dont on a entendu la partition pour Bird People de Pascal Ferrand, et à l'instant, La Marche de l'Empereur, donc musique d'Émilie Simon, qui est le choix de notre invitée Julie Rouet. Voilà, je vous ai demandé à chacune de me donner un peu d'un choix de compositrice à diffuser. Pour revenir tout d'abord juste sur Béatrice Thirier, est-ce que vous considérez aujourd'hui, parce que le public le voit comme ça, que Béatrice Thirier est un peu l'arbre qui cache la forêt, est un peu l'ambassadrice de votre corporation, enfin des compositrices?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle était là bien avant la majorité d'entre nous. Elle fait partie de celles qui sont là depuis assez longtemps et qui, en plus, ont maintenant une reconnaissance institutionnelle qui fait que, oui, son existence est importante. Elle a un peu tracé le sillon.
Et à l'instant, donc, Émilie Simon, qui est la première nommée au César pour La Marche de l'Empereur, pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous touche dans cette partition?
Moi, je crois tout simplement que c'était la première fois de ma vie que je voyais un film dont la musique était composée par une femme. D'ailleurs, je ne me suis pas dit les choses comme ça à ce moment-là. Émilie Simon, c'est une électro avec de la voix, qui a quelque chose qui me touche et que j'aime bien faire moi aussi. Voilà, je trouve que ça ne se démode pas, contrairement à beaucoup de sons électro.
Et comme on l'entend avec Émilie Simon, c'était donc non seulement une des rares compositrices à être vraiment populaire à cette époque-là pour le cinéma, mais peut-être ça a aidé évidemment qu'elle est d'abord chanteuse d'albums, et c'est quelque chose qui se retrouve très fréquemment, que des compositrices de films sont en majorité d'abord des chanteuses. Enfin, je dis d'abord parce que pour le public, évidemment, elles sont identifiées en tant que chanteuses. Je pense évidemment à Camille, qui a aussi fait des musiques de films, Audrey Ismaël, Morgane Kibi, ou encore Olivia Merilati, en fait, qui est chanteuse avec le duo The Do et qui a fait Sparring il y a quelques années, ou encore Yaël Naïm, évidemment chanteuse et compositrice de cinéma, et vous-même, Julie Rouet, d'ailleurs, prêtez la voix parfois, notamment sur un album personnel.
Oui, moi c'est un petit peu dans le sens inverse. J'ai d'abord fait de la musique de film et ensuite je me suis mise à chanter. Mais c'est vrai que assez souvent on cherche pour les BO des noms, des gens connus, des gens dont on connaît l'univers, et donc quand on vient de la pop et qu'on a déjà un univers bien identifié, c'est quelque chose d'un peu rassurant. Donc il y a vraiment beaucoup de... Enfin, j'ai l'impression deux courants principaux chez les compositeurs de musique de film d'une manière générale, ceux qui viennent vraiment de la musique de film, orchestrale, conservatoire, etc., et ceux qui viennent de la pop, donc c'est assez logique qu'on retrouve pas mal de chanteurs et de chanteuses.
Et en plus, il y a une nouvelle vague de chanteuses aujourd'hui. On n'a jamais autant parlé du féminin en pop française. Et peut-être que finalement, le cinéma va se nourrir musicalement des femmes par la pop française. Quand, par exemple, je ne sais pas, pour citer Juliette Armanet, si un jour elle se met à faire de la musique de film, ben voilà, peut-être que toute cette pop française va aussi se mettre à ajouter du féminin dans les statistiques du cinéma français. D'ailleurs, pour parler de statistiques, c'est 6% le pourcentage des femmes au générique des films français. En tout cas, c'est ce que j'ai dénombré sur l'année 2020, 2019 et 2018. C'est 5 à 6% de femmes dans les génériques de films. Peut-être Delphine Campi, qu'en pensez-vous de ces statistiques? Évidemment, pas du bien.
Non, mais moi je suis d'un naturel très optimiste. Je vois le verre à demi plein. Je me dis, y a plein de trucs à faire. Il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup de choses à changer. Voilà ce que j'en pense. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant comme nombre. Et ben moi, je vais rebondir parce que vous parlez de chanteuse et de pop, mais moi, je viens plutôt du côté rock et pas chanteuse, musicienne. Donc, les femmes compositrices, ça peut être aussi des instrumentistes. Et justement, moi, j'ai choisi en musique, mon coup de cœur, c'était la musique de Shannon Wright, qui est guitariste, pianiste et qui chante aussi, mais qui est quand même une sacrée instrumentiste, pour la BO qu'elle a fait pour Les Confins du Monde, parce que je me suis sentie proche de ça. J'ai entendu une approche instrumentaliste, mais pas orchestrée, comme disait Julie, pas de cette mouvance-là, plutôt une femme qui compose avec son instrument, toute seule devant son écran. Voilà, donc ça c'est mon contrepoint à moi.
D'ailleurs, bon, évidemment, il faut toujours éviter de faire des généralités, évidemment, et moi le sentiment que j'ai, c'est que, et puis c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de compositrices, et c'est aussi une richesse, c'est que j'ai l'impression que les femmes en musique de film sont celles qui sont le plus versatiles, le plus multiples, multi-instrumentistes même, dans la mesure où la voix fait aussi partie de leur arc d'instruments. Et donc Béatrice Thirier, d'ailleurs, on en parlait, elle-même peut passer d'un genre à un autre. Donc même les compositeurs sont aussi versatiles, mais il y a des compositeurs qui sont que dans un sillon, souvent, orchestral, ou voilà. Alors que les femmes compositrices savent peut-être un peu plus changer d'angle. Et c'est ce que vous avez fait vous-même, Delphine Campi, on va l'aborder tout à l'heure. Alors Shannon Wright, évidemment, donc multi-instrumentiste, dont la voix, Les Confins du Monde. Vous l'avez aimé, j'imagine, ce film de Guillaume
Niclou. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Très étonnant, c'est un film qui pénètre, qui reste en nous pendant un moment. Il y a une ambiance suintante. Oui, j'ai beaucoup aimé.
Les Confins du Monde, donc musique de Shannon Wright. Thank you. Delphine Campi, vous qui avez choisi la musique de Shannon Wright pour Les Confins du Monde, on vient d'entendre votre composition pour un moyen-métrage, Nostos.
Long-métrage, documentaire.
C'est un long-métrage,
ouais, c'est un long.
Documentaire de Sandrine Dumas. On sent le côté rock, évidemment, qui vous correspond. Comment, justement, vous qui venez du rock en tant qu'instrumentiste, vous vous êtes acclimaté, on va dire, à ce travail de commande, quelque part, quel cinéma ?
Ouh, la vaste question. En fait, je me suis... Elle m'a choisi aussi parce qu'elle aimait ce que je faisais en musique, donc j'étais libre, pas de m'acclimater, mais c'est quelqu'un que je connais très bien, donc j'ai plutôt travaillé avec elle sur l'ambiance, enfin je savais ce qu'elle voulait, et ça a été relativement facile de, je sais pas comment expliquer, de me jeter dans son film, dans la musique de son film avec tout mon bagage musical. Et puis après c'était plus difficile d'enlever des choses et de nettoyer pour que ça, voilà, pour que ça corresponde vraiment au film, que ça ne soit pas trop bavard, que tout ça.
Alors évidemment, que ce soit pour des compositeurs ou des compositrices, la musique de film, la clé, ce sont les rencontres, ce sont les opportunités, évidemment. Et donc vous, par exemple, quelle a été l'opportunité pour cette rencontre avec Sandrine Dumas ?
On se connaissait avant, hein, pour dire la vérité, on est amis depuis très très longtemps. Et moi, je rajouterais que la clé, c'est vraiment le dialogue avec le metteur en scène, que je la connaisse ou pas. C'est de comprendre ce que le metteur en scène veut et d'essayer de... Même si on pense avoir compris, il faut toujours approfondir la communication, l'entente. Voilà, moi, pour moi, c'est ça la clé.
Est-ce que, donc on parle d'opportunités, mais parfois il peut y avoir aussi des freins. Est-ce que vous avez ressenti des freins
Oui.
Oui. Ils étaient de quelle nature ?
C'est-à-dire que quand même, j'ai pas une grande expérience, du coup, moi je m'emballe et je fais des œuvres qui durent 3 minutes et on n'en garde que 8 secondes. Donc forcément, pour moi, c'était une espèce de frein à mon... Voilà, mais sinon, comme on avait bien communiqué au départ, j'ai pas eu vraiment de frein créatif parce que on savait vers quoi on se dirigeait.
Alors on parle souvent dans le féminisme de sororité. Le point commun que vous avez, Delphine Campi, avec Julie Rouet, c'est que votre premier long métrage à toutes deux était avec une réalisatrice. Donc vous, Sandrine Dumas, est-ce que vous sentez quand même ce tremplin possible par les réalisatrices ?
Probablement, oui, je m'avancerai pas vraiment sur une généralité là-dessus, mais il y a, encore une fois, c'est l'entente, la communication. Je pense qu'avec les femmes, il y a quelque chose qui peut aller plus vite et être plus efficace, plus on se comprend peut-être mieux. Enfin, je prends des pincettes, hein, parce que il y a sûrement des femmes avec qui ça ne se passerait pas bien, mais il y a quand même quelque chose de... On fonctionne un petit peu pareil, en général. Enfin, bon, à prendre avec des pincettes, mais moi, je suis persuadée de ça, quand même.
Julie Rouet, Delphine Campi, peut-être vous entendre Camille Petitjean sur le fait également de venir de la scène. Camille Petitjean, vous aviez, on reparlera tout à l'heure de votre musique, mais on parlait justement de cette capacité d'alterner les projets totalement différents les uns des autres. C'est un peu ce qui vous caractérise, j'ai l'impression.
C'est vrai que j'aime beaucoup ça, et c'est vrai que c'est quand même génial d'avoir cette possibilité d'aller à droite à gauche, d'aller dans les directions avec les personnes qui nous intéressent aussi. Donc, je me verrais pas, c'est vrai, me cantonner à un truc particulier.
Et on l'abordera aussi tout à l'heure avec Florence Caillon, qui a fait du cinéma, mais aussi beaucoup de danse, de spectacle. Évidemment, la multiplicité des projets vient aussi du support différent, hein, de la télé au cinéma, à la scène, à la danse, au spectacle vivant.
En vrai, c'est aussi une aération, je trouve. C'est deux mondes complètement différents, qui se complètent, qui enrichissent la vie, et qui font qu'on s'use pas. Enfin, moi, j'ai cette sensation-là, et j'ai l'impression que quand j'en ai un peu marre de la scène et que j'ai un film, je suis hyper contente. Et quand j'en ai marre de ce monde, parce que j'ai fait aussi des séries très longues pendant 10 ans, où parfois on peut avoir une certaine lassitude, et ben tout d'un coup on y revient. Enfin, le fait d'aller à ces allers-retours m'ont donné beaucoup de liberté. Après, faut pas compter ses heures.
On reçoit donc le collectif Troisième Autrice. On reviendra évidemment sur ce collectif. J'ai plein de questions pour comprendre un peu ce collectif. Pause musicale avec Mika Lévy, qui est la femme qui monte récemment, qui vient d'ailleurs de la musique électronique, hein, puisqu'elle était DJ sur l'intitulé Mika Chou, et qui a fait vraiment parler d'elle avec Under the Skin, une musique à la fois expérimentale, lancinante, émouvante. Ça aurait pu être aussi mon choix, et vous êtes deux à l'avoir choisi, Delphine Campi et Julie Rouet. Qu'est-ce qui vous touche dans cette partition, l'une et l'autre ?
Bah, Mika Levy, c'est juste une énorme claque, en fait. Under the Skin, c'était quelque chose de complètement hallucinatoire.
Totalement d'accord.
Voilà, un truc que j'avais jamais vécu. Et vraiment, je crois, pour la première fois, je me suis dit que la musique au cinéma, ça pouvait prendre les tripes, quoi. Ça pouvait vraiment parler à notre deuxième cerveau, là-bas, en dessous.
Oui, c'est moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pourtant un synthé. Il y a bon, que des choses qu'on connaît, mais ça fait ce film-là, pareil, j'ai pris une énorme claque. Ça m'a emmené. Ça m'a transporté quelque part je l'entends toujours comme une référence dans beaucoup de musique que j'entends.
Vous pouvez retrouver sur Cinésique le best-of 2020, et dans le best-of 2020, il y a Monos, qui est la musique que Mika Levy a composée en 2020, et Under the Skin était sa première partition pour le cinéma. Musique de Julie Rouet. Alors moi, cette musique, je l'ai d'abord entendue dans un court-métrage d'Angèle Kyodo qui s'appelle Les Chiens. Et on retrouve cette musique dans un long-métrage, Lights of Baltimore, pas encore sorti dans les salles. De toute façon, ce serait compliqué aujourd'hui de le sortir. Julie Rouet, donc cette musique qui traverse d'un film à l'autre. Et surtout, ce que j'apprécie particulièrement, c'est la présence vocale, évidemment.
Oui, alors en plus, l'histoire, moi je l'aime bien parce que c'est ma petite cousine qui avait 13 ans à l'époque, qui est venue enregistrer, qui a fait toutes les voix. Enfin, moi je chante les voix graves et elle l'aiguë. Et elle a été rémunérée en Kinder Surprise.
Ah oui. Alors Julie Rouet, vous avez un parcours assez atypique, ou pas, parce que je crois que ça se retrouve quand même chez d'autres compositrices. C'est le fait que vous soyez compositrice et aussi de formation d'ingénieur du son. La technique du son est aussi quelque chose qui vous caractérise. Comment vous gérez le côté compositrice et ingénieur du son? Est-ce que quand vous composez de la musique, le rapport au son est quelque chose qui vous préoccupe?
Absolument, mais j'ai l'impression qu'on est très nombreux et nombreuses dans ce cas-là, en musique de film. Moi, j'ai d'abord été monteuse son, ce qui me donne une approche vraiment par la matière de la musique et du son en général. Et pendant très longtemps, j'hésitais à dire que je faisais les deux, que j'étais compositrice et monteuse son. J'avais l'impression qu'on n'allait pas me prendre au sérieux d'être à la fois technicienne et artiste. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, non, c'était un super atout, parce que la musique de film, c'est un métier très technique, en fait. Pour produire des maquettes de qualité, il faut absolument mettre les mains dans le cambouis. Et donc voilà, aujourd'hui je pense que c'est tout à fait audible et c'est même très valorisé d'avoir des compétences techniques, ce qui peut-être dans les générations au-dessus n'était pas si évident. Mmh.
Pour revenir sur le collectif Troisième Autrice, parmi vos nombreuses missions, j'imagine qu'il y a aussi une mission de visibilisation des compositrices, notamment à travers d'événements. Est-ce que justement vous prévoyez des événements ?
Des événements, on les prévoit pour l'instant un petit peu dans l'abstrait, mais dans nos projets, on voudrait organiser des tables rondes. Donc probablement sur YouTube ou toute autre plateforme permettant comme ça de visibiliser ce qu'on fait. De discuter de sujets qui nous concernent et qui concernent tous les gens qui font de la musique de film, avec des producteurs, avec des réalisateurs, avec des superviseurs musicaux, pour ouvrir le débat.
Si les personnes qui nous écoutent veulent se tenir au courant de vos prochaines actualités, il y a une page Facebook.
Pour l'instant, il y a une page Facebook, il y aura bientôt un site internet, à n'en pas douter. Et je me permets de faire un petit peu de pub aussi, parce que dans notre association nouvellement créée, il y a des membres qui sont compositrices, mais on a aussi une place pour les soutiens. Donc toute personne qui souhaite soutenir ce qu'on fait et être informée peut très bien devenir membre.
Très bien. Donc collectif Troisième Autrice, hein, vous pouvez le trouver sur Facebook pour être alerté également des prochaines opportunités. Et on reviendra tout à l'heure sur le statut de membre si des personnes nous écoutent, des compositrices veulent vous rejoindre. Également un autre sujet, on vient d'entendre Mika Levy, je vous disais qu'elle était DJ. Le fait que voilà des compositrices viennent de la musique électronique, c'est aussi très fréquent. On a entendu Émilie Simon, évidemment, qui aussi est dans la musique électronique, et aussi une pionnière qui était en couple, c'est le couple Bébé et Louise Baron, en fait, qui sont les premiers dans l'histoire du cinéma à avoir fait une musique électronique au cinéma. C'était La Planète Interdite, un film avec les extraterrestres, donc Hollywood quand même. Hollywood qui était dans le tout orchestral s'est dit, bah, il faut une musique pour les extraterrestres, on va faire une musique électronique. Et ce qui est intéressant, c'est que la SACEM américaine de l'époque, le syndicat des compositeurs, avait refusé d'attribuer le terme compositeur ou compositrice sur ces artistes, puisqu'en fait ils étaient ingénieurs du son à la base et ont fait, à l'époque il n'y avait pas encore de synthétiseur, on était dans les années 50, et ils ont fait la partition de Planète Interdite à partir de générateurs de fréquences. Donc la frontière entre technologie électronique et musique parfois était peu reconnue, mais en tout cas ils ont été les premiers à franchir un cap là-dessus. On peut citer aussi la DJ Chloé Thévenin, qui a fait signer une très belle partition récemment pour Paris la Blanche, et puis récemment à Cannes, Fatima Al-Kadhi, une superbe partition électronique pour Atlantique de Mati Diop, voilà, qui a reçu d'ailleurs le Grand Prix au Festival de Cannes, pour citer un peu comme ça des compositrices qui viennent de la musique électronique. Et je me dirige vers Camille Petitjean, vous m'avez vu venir, vous venez évidemment de l'électronique.
Oui, ouais. Carrément, du rock il y a très longtemps, mais de l'électronique aussi, oui. C'est une partie très importante, un peu comme Julie parle d'être ingénieur du son et le fait d'aimer avoir les mains dans le cambouis. C'est vrai que moi, j'ai ce rapport-là aussi avec les machines. Et c'est vraiment un plaisir énorme d'avoir des objets qui ne sont pas acoustiques et qui sont du coup uniquement de l'électricité qui circule. Et qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut la manipuler ? Ça, c'est vraiment passionnant pour moi.
Et votre choix, avant de parler de vos musiques à vous, votre choix parmi les compositrices de l'histoire du cinéma, il y a Wendy Carlos, ouais, qui a travaillé avec Kubrick, notamment, également, pas que pour Kubrick, mais également pour les studios Disney. Ouais. C'était assez révolutionnaire à l'époque, les studios
Disney. Totalement révolutionnaire, une personne totalement révolutionnaire, incroyable, et qui a vraiment œuvré énormément pour une sorte de vulgarisation, ou en tout cas de passer la musique électronique dans le domaine... comment est-ce qu'on pourrait dire, quotidien, quoi, pratiquement. Donc c'est quelqu'un de vraiment important pour moi. Ouais.
Mm-hmm. Wendy Carlos, donc on doit rappeler évidemment que c'était Walter Carlos, et une transition s'est faite vers Wendy Carlos. Donc, et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de cette transidentité. À l'époque, c'était très très peu présent dans les débats. J'imagine que Wendy Carlos a eu justement une difficulté, j'imagine, à s'affirmer.
Alors, je pense pas du tout que ça a été une question à aucun moment pour elle, dans le sens où son travail était quand même de toute façon une priorité absolue, et aussi dans la mesure où j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était vraiment dans sa route, suivant son chemin et faisant les choix qu'elle a fait et les décisions sans tellement réfléchir. Et je crois que même après Stanley Kubrick, qui a travaillé du coup avec Walter Carlos à un moment, puis avec Wendy Carlos, je pense qu'il n'y a pas eu tellement de débat en fait.
Mmh. C'est un bon exemple justement. Wendy Carlos donc pour la musique de Tron. D'entendre cette musique électronique, j'ai secoué la tête derrière mon micro, c'est votre partition Camille Petitjean pour un documentaire qui s'appelle Free Bullet. De quoi s'agit-il ?
Alors c'est un documentaire pratiquement à la limite de la fiction mais qui suit le parcours d'un personnage qui est prêtre en fait dans son village et son rapport en fait avec beaucoup des femmes qui sont présentes, et je pense que c'est vraiment son parcours à lui par rapport à sa foi, par rapport à ses désirs et sa volonté de... Enfin bon, des trucs qui nous concernent tous, mais en l'occurrence, c'est très dépaysant, puisque c'est pas du tout ce que moi je peux connaître. Et il y a surtout cette façon de filmer de Paulina Pisarek qui est très intime, qui rentre vraiment dans une proximité telle que c'est presque du voyeurisme, mais avec une élégance vraiment et une photographie qui est magnifique.
Mmh. Vous avez signé cette partition et une autre, je crois, d'un long métrage Boys Like Us, un deuxième film de Patricia. Vous avez écrit ces partitions en duo, je crois.
Oui, tout à fait, avec mon partenaire Thomas Carteron, avec qui on avait un groupe de musique. En fait, on est parti de là et on a eu des possibilités de travailler sur des films. Et on est très très sensible à l'image depuis toujours, l'un et l'autre. Et du coup, c'était une occasion assez exceptionnelle de pouvoir travailler avec quelqu'un en duo sur un film de fiction et sur un documentaire très expérimental quand même. C'était vraiment extraordinaire.
Et après ce duo, Haussmann, il y a un projet solo qui est Claude Violente, des albums de pop, on peut dire ça comme ça ?
Ouais, carrément, je pense que c'est ça, ouais.
Et donc aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, évidemment, Camille Petitjean, est-ce qu'aujourd'hui, dans vos projets futurs, vous avez envie de l'assumer de manière personnelle, ou alors au contraire, collaborer de nouveau ?
Vous voulez dire par rapport à Haussmann ou toute seule ?
Haussmann ou même d'autres collaborations éventuelles ?
Bah oui, je trouve que c'est quand même une chance énorme qu'on a de pouvoir travailler avec d'autres personnes, de rencontrer des gens, d'apprendre des choses des autres. Quand on voit les gens travailler, on a vraiment une dimension qui s'ouvre, moi je trouve. et notamment dans les musiques de films où c'est tellement particulier à chacune par rapport à son parcours, une qui est ingénieure du son, une qui est pianiste depuis toujours.
Florence Caillon.
Alors, j'ai pas pensé à Florence Caillon, mais je voulais dire. En tout cas, tout est possible et c'est vraiment génial de pouvoir se rencontrer.
Et par rapport au collectif 3e Autrice, quel est votre regard justement sur cette œuvre?
Moi, je suis arrivée il n'y a pas si longtemps, en tout cas en voyant qu'il y avait un rassemblement de personnes qui ont des chemins de vie très différents, mais qui ont tout ce, je pense, cet amour de la musique et de la musique à l'image. Je trouve que c'est quand même assez une occasion en or de pouvoir encore une fois apprendre, de pouvoir se soutenir, de pouvoir observer comment on peut avoir une place et être présent au même titre que d'autres, que des hommes par exemple.
Alors si des compositrices nous écoutent, est-ce qu'il y a des critères particuliers pour pouvoir être membre de l'association, du collectif? Florence Caillon.
On en a pas mal discuté, pour l'instant c'est plutôt ouvert. Il faut avoir fait déjà des choses,
des films pour l'image,
oui.
Bah, essentiellement, non, c'est de se reconnaître comme compositrice, même des toutes jeunes compositrices qui sont encore à l'école font partie du collectif.
Troisième autrice, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais il y a trois auteurs sur un film, compositrice, compositeur, réalisateur, réalisatrice et scénariste, et donc troisième autrice pour le revendiquer au féminin évidemment. Est-ce que vous rencontrez dans cette création du collectif des soutiens, notamment de réalisatrices, mais notamment d'institutions? Est-ce que la SACEM, le CNC ou le collectif 50-50, que vous pouvez d'ailleurs peut-être définir, voilà ces soutiens-là?
Le collectif 50-50, on est assez nombreuses à en faire partie, donc on fait partie des sujets, disons, qu'elle défend. Donc je dis qu'il, parce qu'en fait c'est un collectif mixte qui défend la diversité dans le cinéma d'une manière très très large. Nous, notre champ est beaucoup plus restreint.
Donc si c'est mixte, on peut dire elle, parce que le masculin l'emporte plus.
Allez.
Oui, Yel.
La SACEM aussi réfléchit beaucoup à cette question-là, notamment Delphine.
Oui, la SACEM, moi je suis plus proche de la SACEM, s'intéresse beaucoup à ce que fait Troisième Autrice et regarde d'un œil bienveillant la montée du collectif.
50-50, je ne l'ai pas défini, mais c'est un collectif qui visait à la parité au sein des productions de films, où il y a une aide du CNC, un bonus. Lorsqu'il y a cette parité, est-ce que les compositrices font partie de ce bonus?
Alors ça, c'est un de nos chevaux de bataille, et c'est pas gagné, parce qu'en fait, donc ça, c'est tout un calcul un petit peu compliqué pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de parité. Et en fait, il y a un calcul qui est fait sur les postes à responsabilité dans les films. Il faut un certain nombre de postes au féminin pour avoir un supplément sur une aide qui est accordée par le CNC. Et nous, on aimerait bien que le poste de musique de film soit ajouté à ce barème-là, mais c'est pas si simple. Et notamment parce qu'on est tellement peu nombreuses que personne n'a vraiment intérêt à nous rajouter dans ce barème. C'est-à-dire que ce point-là, il va être super dur à obtenir. Et donc, même du côté des plus féministes du collectif 50-50, c'est un peu compliqué à faire passer.
Oui. C'est aussi un peu un cheval de bataille de ma commission parité à la SACEM, où on réfléchit à comment peut-être organiser des quotas pour justement qu'il y ait plus de femmes dans les subventions, les projets. Enfin, moi, c'est un de mes... Un de mes chevaux de bataille. Ouais.
Oui, Florence Caillon.
Après, je pense que ce qui est important, c'est d'être sur le terrain aussi, c'est-à-dire de rencontrer des réalisateurs, des réalisatrices, des productions. Je trouve que c'est vraiment là. Il faut qu'on y aille maintenant, en fait, de plus en plus, et il faut que les gens jouent le jeu de notre présence.
Collectif 3e Autrice, il y a évidemment l'artistique derrière le travail des compositrices, mais comme on vient de l'entendre, beaucoup de choses techniques pour faire évoluer votre cause, la cause mais d'ailleurs qui n'est pas que la vôtre. Et parmi les membres du collectif 3e Autrice, il y a Delphine Mantoulet qui a signé cette partition pour Tony Gatliffe, Liberté. Thank you. À l'instant, nous venons d'entendre la partition de Eyes Wide Shut par Jocelyn Pook en 1999. Alors la particularité, je vous disais tout à l'heure que les Britanniques étaient très présentes, Rachel Portman, Anne Dudley, eh bien Jocelyn Pook est britannique et elle est à la base altiste, et elle jouait de son instrument pour Massive Attack, Laurie Anderson, Richie Sakamoto, Peter Gabriel, et c'est grâce à Kubrick qu'elle a fait sa première partition pour le cinéma. On dit que Kubrick n'aimait pas les compositeurs, compositrices, notamment pour 2001 Odyssée de l'espace, où il n'y a que des musiques préexistantes. Eh bien, Kubrick a quand même fait confiance à Jocelyn Pook, non seulement pour faire la musique de son film Eyes Wide Shut, mais aussi pour prendre en charge musicalement une des scènes les plus importantes du film, qui est une scène masquée, où Tom Cruise arrive masqué dans une assemblée très angoissante comme scène, et cette partition qui rappelle un peu les musiques un peu tripantes indiennes aussi, il y a des choses comme ça, très très particulières. Et donc c'est une musique originale, signée Jocelyn Pook, et qui a continué par la suite à faire d'autres musiques de films. Et elle a fait aussi, Jocelyn Pook, un spectacle de danse de Akram Khan Desh, représentation à Paris en 2013. Et donc Jocelyn Pook a fait des ponts entre le cinéma et la scène et la danse, comme vous, Florence Caillon.
Oui, puisque moi je partage ma vie depuis bien longtemps maintenant entre la musique de film, et enfin la composition de musique de film et la scène, où je suis chorégraphe circassienne, c'est-à-dire que je chorégraphie le vocabulaire acrobatique circassien. Et je compose aussi pour la scène, pour mes propres pièces, beaucoup, mais aussi pour d'autres.
On parlait tout à l'heure du côté multi-tâche des compositrices, et vous-même, formation variée, hein, de violoncelle, piano, guitare, banjo, boîte à musique, ukulélé, cordes, flûte, cymbalum, même l'électronique.
Alors, je joue rien de tout ça, hein, quand même, il faut le dire. Hein. et j'aborde ce sujet que, pour moi, la composition, c'est autre chose que l'interprétation musicale, que l'instrumentation. Je compose à partir d'un clavier, mais je suis un bébé de l'informatique musicale, c'est-à-dire que je n'ai pas appris la musique de façon traditionnelle, je n'ai pas fait d'études au conservatoire. Enfin, j'ai suivi pendant 2 ans une classe de composition à Pantin, un endroit absolument passionnant où des compositeurs d'origine, de toute origine, se retrouvaient et échangeaient, on regardait les partitions des uns des autres, on en parlait, c'était absolument passionnant. Et j'ai appris effectivement beaucoup de choses, des bases, de l'harmonie, etc. là-bas.
Très intéressant. Et puis c'est vrai que le grand public souvent confond interprétation et composition, ouais. Et ont l'impression par exemple que tel interprète a fait aussi la composition, ce qui n'est pas forcément le cas.
C'est ça, et je trouve que c'est important de rendre visible le rôle de l'auteur, de l'autrice, parce que le monde des idées ne se voit pas. C'est-à-dire on voit bien un violoniste ou un pianiste qui va jouer, mais la personne qui compose une musique, qui la pense, qui la mature, qui la malaxe, ça se voit pas de la même façon. On va voir le pianiste qui la joue, on va voir l'instrument qui la joue. Mmh. Et la composition, c'est vraiment un truc particulier qui n'est pas la même chose que l'interprétation. Mmh. Par contre, je travaille avec des musiciens les mêmes, enfin, il y en a certains qui me suivent depuis très longtemps, et ça, c'est très précieux.
Mmh. Florence Caillon, vous avez donc écrit la composition musicale de Qui a tué Lady Winsley, un long métrage de cinéma. Un mot dessus avant de l'entendre ?
Oui, en fait, c'est mon premier long, puisque moi, j'ai fait beaucoup de télévision. Voilà. Et ça fait longtemps que je voulais faire du cinéma, et c'est mon premier long. Là, je viens de finir un court-métrage, et c'était une belle aventure.
Qui a tué Lady Winsley ? Musique de Florence Caillon. Nous venons d'entendre la musique de Hildur Gudnadottir pour Tchernobyl, la série HBO de la compositrice islandaise qui a eu l'Oscar pour Joker. Alors j'ai préféré vous faire entendre ce Tchernobyl que Joker, évidemment, qui est beaucoup plus entendu par ailleurs. Tchernobyl, donc, qui est aussi donc une série télé pour HBO. C'est bien aussi de se dire que les compositrices sont aussi présentes pour la télévision, et de plus en plus d'ailleurs. D'ailleurs, Florence Caillon, vous disiez que vous avez fait beaucoup de télévision avant de signer votre premier long-métrage.
Tout à fait, j'ai fait les musiques de Boulevard du Palais pendant 10 ans, par exemple, une série, et c'était absolument une aventure géniale. On voit vieillir les acteurs, c'est super.
Et sur la place des femmes, justement, à l'occasion donc de cette invitation du collectif Troisième Autrice, on questionne cette place des femmes dans le cinéma, mais est-il plus facile à la télévision ?
Non, bah, en fait, moi, quand j'ai commencé, je connaissais vaguement Béatrice Thirier, que j'avais repéré son nom au générique. On ne se connaissait pas du tout, en fait. Parce que comme je suis beaucoup avec le spectacle vivant, je ne connaissais pas beaucoup les gens de ce métier. Je ne connaissais pas mes consoeurs, mes confrères. Et justement, Troisième Autrice, c'est génial pour ça, parce qu'en fait, enfin, on se connaît, on se rencontre. Et donc, j'avais l'impression qu'il y avait un peu Béatrice Thirier et moi.
tout le monde s'est dit ça.
Et du coup, j'ai fait pas mal de télé. Ouais, j'ai travaillé avec Renaud Bertrand, j'ai travaillé avec Manuel Poirier.
Quand j'avais son âge, j'excellais au violon. Pourquoi me l'interdire tout à coup ?
Tu sais très bien que ce n'est pas un instrument pour une jeune fille. Ton père te le répète sans arrêt.
Oh, c'est dingue.
On termine, les extraits de Nanère sont cruels. On termine l'émission. Tout d'abord, je tenais à citer quelques autres compositrices qui sont autour du collectif Troisième Autrice. Et évidemment, on ne pouvait pas autour de cette table inviter tout le monde. Il y a Florencia Di Concilio, qu'on avait pu apprécier cette année dans Calamity, le film d'animation. Anne-Sophie Versnayen, qu'on avait pu apprécier dans Belle Époque, et qui prochainement va d'ailleurs participer au OSS 117 de Nicolas Bedos. Delphine Malocena, Déborah Bombard-Golicki, Diana Buscemi, Clémentine Charuel, Anne Deboisson, Camille Delafont, Marie Laroche, Laetitia Pansanel-Garic, Irina Prieto-Botella, Claire Laurencin, Amandine Robillard et Selma Mutal. Voilà pour citer d'autres noms, mais ce n'est pas exclusif, je suis sûr que j'en ai oublié plein, pour montrer qu'il y a un collectif et surtout que vous êtes très nombreuses à participer. L'heure se termine. On va terminer avec deux avant-premières. L'avant-première qui vous concerne, Julie Rouet, c'est Cigare au miel, présenté à Venise en août dernier. Le film, on attend la sortie du coup. Et ensuite, on va écouter pour une série télé Little Birds par Anne Nikitin.
Merci à vous quatre et à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.